Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 4. Et le thème de notre méditation ce matin, c'est la foi grandissante de Nicodème. La foi grandissante de Nicodème. Nous aurons trois lectures à faire là-dessus. Et nous allons commencer par la première lecture. Dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 3, le premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est la parole du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, viens au secours de notre faiblesse. Purifie nos lèvres, nos pensées, afin que nous puissions parler de toi, le Dieu trois fois saint. Guide-nous pendant ces instants et que toi seul, Seigneur, tu puisses parler au-dedans de nous. Au nom de Jésus. Amen. La foi grandissante de Nicodème. Nicodème, je pense que c'est un nom qui est connu. Hein. Il y a même des enfants qui s'appellent, qu'on donne des prénoms de Nicodème. Nous connaissons tous Nicodème. Mais il y a une chose dans les évangiles, parmi les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y a que l'évangile de Jean qui parle de Nicodème et qui nous donne plus de détails sur sa marche avec le Seigneur. Dès le chapitre 3, comme nous l'avons lu, dès le premier verset, nous voyons la rencontre de Jésus avec Nicodème. Mais en poursuivant la méditation de l'évangile de Jean, en poursuivant la lecture de l'évangile de Jean, vous remarquerez que Nicodème intervient non seulement une fois au chapitre 3, mais Nicodème intervient trois fois dans l'évangile de Jean. Trois fois dans l'évangile de Jean. Au chapitre 3, au chapitre 7 et au chapitre 19. Et à chaque intervention, à chaque apparition de Nicodème, nous remarquons, nous voyons qu'il y a une croissance, il y a une progression dans sa relation avec le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons méditer ce matin. Le nom de Nicodème signifie victoire du peuple. C'est ça la signification du nom de Nicodème. Victoire du peuple. Il était pharisien, comme la Bible dit, docteur de la loi, un homme respectable, un juif, un chef juif, membre du Sanhédrin, qui était le conseil suprême doté de pouvoirs politiques, religieux, judiciaires à l'époque. Nicodème était quelqu'un d'influent. Mais ce matin, avec l'aide du Seigneur, nous voulons méditer sur sa marche avec le Seigneur. Comment sa foi a évolué? Comment sa foi a progressé? D'où il est parti et où il a abouti? C'est ce que nous voulons méditer ensemble avec l'aide du Seigneur. Et pour cela, notre méditation ce matin sera axée sur trois points. Le premier point, la rencontre de Jésus et Nicodème, que nous venons de lire dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Le deuxième point, nous verrons Nicodème qui défend Jésus-Christ devant les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Et le troisième point, nous verrons Nicodème et l'ensevelissement du corps de Jésus-Christ. Donc le premier point, la rencontre de Jésus avec Nicodème. Deuxième point, Nicodème défend Jésus-Christ devant les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Et le troisième point, Nicodème et l'ensevelissement du corps de Jésus-Christ. Alors le premier point, la rencontre de Jésus avec Nicodème. C'est ce que nous venons de lire, le récit, l'histoire que nous venons de lire. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, si vous le lisez tranquillement, très bien, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette rencontre est une histoire qui commence la nuit dans l'obscurité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nicodème est venu voir Jésus-Christ la nuit. C'est une histoire qui commence la nuit. Mais en poursuivant cette histoire, nous remarquerons que cette histoire ne finit pas la nuit. Elle commence la nuit, mais cette histoire ne finit pas la nuit. Nous verrons que cette histoire finit au grand jour. Cette histoire finit au grand jour avec la lumière de celui qui est le véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Une histoire qui commence la nuit et qui finit dans la lumière. Une histoire qui commence la nuit et qui finit au grand jour. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nicodème vient voir Jésus la nuit, dit le verset 2. Mais sa propre nuit était encore plus noire, plus obscure, plus sombre qu'il ne le pensait. Il est venu voir Jésus-Christ la nuit, mais lui-même, dans son âme, existait vraiment une obscurité terrible. Et le chapitre 2 de l'évangile de Jean, avant de raconter cette histoire de Nicodème qui vient voir Jésus-Christ, vous verrez si nous remontons un peu plus haut au chapitre 2, vers la fin du chapitre 2, le chapitre 2 se termine avec cette pensée que nous lisons au verset 3, au verset 23, pardon. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles que Jésus faisait. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles que Jésus faisait. Ces miracles que Jésus faisait devraient donc déclencher la foi parmi ce peuple, parmi les pharisiens, et non déclencher la connaissance. C'est très important, parce que la Bible dit, plusieurs crurent en son nom. Ces miracles devaient déclencher la foi dans leur cœur et non la connaissance. Mais, lorsque Nicodème est venu voir Jésus, il ne savait pas qu'il lui manquait des choses essentielles, essentielles et très importantes à comprendre dans sa vie. Il ne le savait pas. Et Nicodème, tout de suite, il prend le devant. Nicodème prend la direction des choses. Nicodème commence l'entretien avec Jésus-Christ au verset 2 en disant, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Pour Nicodème, il considère Jésus comme un maître quelconque, mais qui a la puissance de Dieu. Et Nicodème, lui, il fixe même les critères, si je peux dire, il fixe même les critères qui, selon lui, lui permet de dire qui est Jésus. Pour lui, Jésus, oui, c'est un grand maître, un maître qui a la puissance de Dieu. Un point. Un trait, et ça s'arrête là. Il fixe ces critères. Les miracles accomplis par Jésus sont pour lui les signes, les simples signes que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. Il reconnaît la puissance de Jésus-Christ. Il reconnaît que Jésus-Christ fait ses miracles avec la puissance de Dieu, il le reconnaît cela. Mais pour lui, ça s'arrête là. Tout ça, ce ne sont que des signes pour lui de voir en Jésus-Christ que c'est un simple envoyé de Dieu. Et ça s'arrête là. Et pourtant, le verset 23 que nous avons lu, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant le miracle qu'il faisait. Normalement, le miracle, ce miracle devrait déclencher la foi dans le cœur de Nicodème. Mais au lieu de déclencher la foi, tous ces miracles pour Jésus, pour Nicodème, c'était que pour... ça ne servait pas à grand chose. Ça ne lui donnait que de la connaissance. Oui, c'était un envoyé de Dieu. Parce qu'il est venu voir Jésus-Christ et dit, nous savons, donc je sais. Je connais, nous savons. Nicodème devrait aller plus loin que simplement reconnaître Jésus comme l'envoyé de Dieu. Il devrait aller plus loin. Mais lui, il s'est arrêté par cette petite phrase, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Le soi-disant connaissance, nous savons qu'avait Nicodème, le soi-disant savoir de Nicodème, masque en fait une grande ignorance. Une grande ignorance. Il sait plus qu'il ne croit. Il sait plus qu'il ne croit. Alors Jésus va l'amener du connaître, du savoir, à naître de nouveau. Jésus-Christ va l'aider, va l'amener du connaître ou du savoir, de la connaissance à naître de nouveau. Christ lui parle de la nécessité de naître de nouveau. Nous n'allons pas parler de la nouvelle naissance parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Bon, mais Christ va lui parler de la nécessité de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Nicodème, malgré cela, est incapable de comprendre comment un homme peut-il naître de nouveau. Comment un homme peut-il naître quand il est grand, quand il est grand, quand il est vieux? Il dit même, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mais Jésus-Christ lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les connaissances religieuses, les connaissances intellectuelles de Nicodème ne l'ont pas amené à avoir l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. Toutes ces connaissances qu'il avait, parce qu'il a dit nous savons, il sait, toutes ces connaissances qu'il avait ne l'ont pas donné cette garantie, cette assurance de la vie éternelle. Et Dieu merci, tout à l'heure nous avons chanté un chant. Nous avons l'assurance de notre salut par la présence de Jésus-Christ. Son sang nous a lavés, nous a rachetés et l'Esprit-Saint nous a régénérés. Nous avons cette assurance-là. Mais Nicodème, à partir des connaissances qu'il avait, du savoir qu'il avait, de ses connaissances intellectuelles et religieuses, n'avait pas cette garantie-là, n'avait pas cette assurance-là. Chers frères et sœurs, Nicodème dit qu'il sait. Mais Jésus lui dit, tu ne sais pas. Si nous voyons verset 10 du chapitre 3, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Quelles sont ces choses? Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit un peu plus haut. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus-Christ lui dit, mais tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Alors au début, au chapitre 3, donc le verset 2, Nicodème dit, nous savons. C'est qu'il avait la connaissance, je sais. Et souvent, frères et sœurs, c'est ce que nous faisons des fois. Je crois que notre frère qui fait souvent l'évangélisation au marché, il sait. Tu parles de quelqu'un de Jésus-Christ, tout ça. Oh, je sais, je connais. Mais en fait, tu connais pas. Tu connais pas, en fait. Tu sais pas. Et c'est le cas de Nicodème. Nous savons. Nicodème sait. Mais Jésus-Christ lui dit, tu ne sais pas. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Tu ne connais pas ces choses. Mais bien aimé, on peut être sincère dans tout ce qu'on fait. On peut être sincère dans tout ce qu'on dit. Et cependant, c'est tromper dans ses convictions. Comme Nicodème. Faisons attention. Nous pouvons être sincères, c'est vrai ce que tu dis. Tu dis la vérité, c'est vrai. Enfin, la vérité, donc, tu dis ce qu'il y a en toi, c'est vrai. Tu es sincère dans ce que tu fais, dans le travail que tu fais. Tu es sincère, c'est vrai. Mais faisons attention, on risque, tu peux te tromper dans tes convictions comme Nicodème. Comme Nicodème. Nicodème était sincère envers Jésus-Christ, mais il s'est trompé dans ses convictions. Il dit, je sais, je connais. Mais non, ce n'était pas ça, alors qu'il ne savait pas. Jésus-Christ ne méprise jamais une âme qui le cherche. Jésus-Christ ne repousse jamais une âme qui vient à lui. Christ l'a accueilli à bras ouverts et lui a donné l'enseignement qu'il fallait. En tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème connaissait Jésus-Christ comme un docteur venu de Dieu, un simple envoyé de Dieu. Il ne le connaissait pas, il ne le prenait pas pour le Messie, pour le Sauveur du monde. Mais nous, nous devons grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ afin de comprendre qu'il est le Messie et qu'en lui, lui seul, se trouve la vie éternelle. Et non comme Nicodème qui voyait en Jésus-Christ comme un simple docteur venu de Dieu. Voilà un peu en résumé l'entretien que Nicodème a eu avec Jésus-Christ. D'où il est parti? Nicodème est parti avec un cœur plein de questionnements, plein d'incompréhension, plein de préjugés peut-être aussi. Mais Christ l'a enseigné, lui a donné la parole de vie. Le deuxième point que nous voulons voir, Nicodème défend Jésus-Christ devant les principaux sacrificateurs. Et pour cela, si un frère peut m'aider pour la lecture, s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 7, versets 45 à 53. Jean chapitre 7, versets 45 à 53. Frère Laurent, peut-être, comme tu es devant. Jean chapitre 7, versets 45 à 53.
Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené, ou plutôt amené? Verset 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répétèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens qui crut en lui? Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on ne sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, mais es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète.
Amen. Merci, frère. Nous retrouvons encore une fois, une nouvelle fois, Nicodème, dans Jean chapitre 7, à partir du verset 45 jusqu'à 53, Nicodème, nous le retrouvons lorsque les pharisiens et les prêtres, les sacrificateurs en chef, cherchaient à arrêter Jésus-Christ alors qu'il assistait au festin du tabernacle à Jérusalem. Les pharisiens et les principaux sacrificateurs envoyèrent des huissiers, comme nous l'avons lu, pour arrêter Jésus-Christ. Mais ceux-ci n'osèrent pas l'arrêter. Revenus bredouilles vers les pharisiens, ils s'attirèrent de sévères reproches. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Vous aussi, êtes-vous séduit? Alors, c'est alors que Nicodème intervient. Nous voyons encore Nicodème qui apparaît. Et Nicodème sort de l'ombre. Au chapitre 3, Nicodème était parti de nuit en cachette. Mais là, Nicodème sort de l'ombre. Et Nicodème prend la défense de Jésus-Christ. Nicodème leur dit, notre loi juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il a fait? Le verset 51. Nicodème s'est fait l'avocat de Jésus-Christ, entre guillemets. Parce que Christ n'a pas besoin d'avocat. Mais Nicodème défend Jésus-Christ. Est-ce que notre loi condamne, peut condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? Nous remarquons dans cette deuxième intervention de Nicodème, par rapport à la première apparition de Nicodème, il y a une petite, pas une petite, il y a une progression, il y a une croissance. Au chapitre 3, il était plein de questionnements dans sa tête, mais ici, c'est quelqu'un qui a pris son courage et qui défend Jésus-Christ. Sa foi a fait des progrès par rapport à sa première rencontre avec Jésus-Christ. Nicodème a eu le courage d'intervenir en faveur de Jésus-Christ. Il prend la défense de Jésus-Christ contre ses amis pharisiens et les accuse même de ne pas connaître la loi. Nicodème leur dit, mais est-ce que notre loi condamne-t-elle? Donc c'est comme s'il dit à ses collègues principaux sacrificateurs, mais vous ne connaissez pas la loi ou quoi? En quelque sorte, c'est ce qu'il leur a dit. Mais Nicodème s'est attiré quand même la foudre de ses amis pharisiens et principaux sacrificateurs. Il est même critiqué, traité de Galiléen, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne mérite même pas d'être écouté. Tu dis, comme disent au travail, tu dis n'importe quoi. En quelque sorte, c'est ça que ça voudrait dire. La Bible précise au verset 50 et 51 que Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on ne sache. Cette précision au verset 50 et 52, pourquoi il y a cette précision que Nicodème, qui était venu de nuit, et maintenant qui intervient, c'est pour signifier que c'est plus la même personne. C'est plus la même personne, c'est plus la même foi. Sa foi a grandi. Sa foi a fait un pas en avant. Il n'est plus comme il était au chapitre 3. Maintenant, Nicodème a grandi dans sa foi. Et il est même prêt. Pas seulement, il est même prêt. Il défend même Jésus-Christ. Nicodème est passé de l'incompréhension, des choses qu'il ne connaissait pas quand il posait des questions à Jésus-Christ. Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il est passé de cela à la défense de Jésus-Christ. Et il ne voit plus les choses de la même manière, de la même façon que ses collègues principaux sacrificateurs. Et il ne voit plus les choses de la même manière qu'il voyait les choses au chapitre 3. Nicodème a évolué. Sa foi a évolué. Nicodème a fait un choix de prendre position pour Christ malgré l'influence et la pression des autres chefs religieux. C'était pas facile, mes frères. Il avait une pression, mais Nicodème a pris position pour Christ. Il n'a plus peur des autres, même si cela devrait lui coûter très très cher. Même si cela devait lui coûter très, très cher. Parce que si nous lisons au verset 9, si je ne me trompe pas, il y a un passage où il est dit que, je ne retrouve pas le passage, où il est dit que si quelqu'un dit ouvertement sa foi, si un pharisien proclame ouvertement sa foi envers Jésus-Christ, il sera chassé de la synagogue. Il sera excommunié. Et Nicodème, à savoir, il était un chef, il avait des avantages. Il avait des honneurs. Mais malgré tout cela, Nicodème a pris ses risques de tout perdre, mais de prendre position pour Jésus-Christ. Il savait que les Juifs méprisaient Jésus-Christ et avaient même décidé d'expulser de la synagogue toute personne qui déclarait sa foi en Jésus-Christ. Mais Nicodème a dit, peu importe. Même si je vais être expulsé, même si je vais perdre mes avantages, même si je vais perdre mes amis de haut rang, peu importe pour moi, je prends ouvertement position pour Jésus-Christ. Il a fait un choix et il a pris une position pour Jésus-Christ, malgré l'influence, malgré la pression des autres. Vous savez, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, il y a des moments où nous devons aussi prendre position, faire un choix devant telle ou telle situation. Prendre position, faire un choix conformément à la parole de Dieu. De nos jours, la pression de l'entourage est de plus en plus forte, qui peut nous amener à dire, si je prends ouvertement position pour le Seigneur concernant tel sujet dans ma famille, au travail, au collège, au lycée, à l'université, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment ils vont me traiter dans ma famille si je fais un choix qui glorifie le Seigneur? Comment seront le regard des autres sur tout cela? Ah, c'est surtout le regard des autres que... Mais frères et sœurs, Nicodème a fait un choix et il a pris une position claire et nette en faveur de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas la politique. Nous n'allons pas dire de politique. Heureusement, il n'y a pas de députés. Nous n'avons pas de députés dans la salle. Il y a certaines lois qui passent à l'Assemblée nationale. Bon, si moi, Marcel, j'étais député, eh bien, il faut prendre la position claire et nette qui glorifie le Seigneur. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Non, Nicodème n'a pas accepté n'importe quoi. Même s'il va perdre ses avantages, même s'il va perdre ses amis, Nicodème a dit, je prends position pour Jésus-Christ. Notre conduite ne doit pas être influencée par la peur ou par la crainte des autres. Souvent, oui, mais je ne suis pas d'accord, mais j'ose pas dire, j'ose pas parler, sinon ça va se retourner contre moi. Non. Si ça retourne contre toi, que ça se retourne contre toi, prends position pour Christ. Prends position pour Christ. C'est ce que Nicodème a fait. Dans Proverbe 29, le verset 25 et 26, nous lisons ceci, je vais lire pour vous. Proverbe 29, verset 25 à 26. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. La crainte des hommes, tu as peur, tu as crainte de ceci, de cela, de ma famille, de mes collègues, de mes enfants, de mes voisins. Mais la Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Par crainte des hommes, chers frères et sœurs, nous connaissons tous cette histoire, par crainte des hommes, Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois, par crainte des hommes. Pierre qui était vigoureux, Pierre qui était vraiment si prompt à foncer pour le Seigneur. Mais quand on avait arrêté Jésus-Christ, par crainte des hommes, Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Nous pouvons lire cela peut-être dans Matthieu chapitre 26. À partir du verset 69. Par crainte des hommes, Pierre a renié Jésus-Christ. Le verset 69 du chapitre 26. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus-Christ. Pierre le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Il n'ose même pas citer le nom de Jésus-Christ. Il dit, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Le verset 73, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Par peur des hommes, peur d'être arrêté peut-être, peur de souffrir, ou peur de quoi, Pierre renia Jésus-Christ. N'ayons pas peur des hommes. Que peut te faire un homme? Parce que c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Malheur à celui qui se confie aux hommes. Malheur. Pierre s'est confié aux hommes. Il a eu peur, la crainte. Mais Nicodème n'a pas eu peur. Nicodème s'éleva et devant ses collègues, il dit, il a défendu Jésus-Christ. Notre prise de position ne doit pas être dictée par la peur ou la crainte des hommes, mais par la confiance en Jésus-Christ. C'est ça qui doit nous dicter de notre prise de position quand nous prenons, nous faisons nos choix. C'est triste des fois de voir, nous les enfants de Dieu, faisons certains choix, prenons des positions dans certains sujets de la vie, des positions qui n'honorent pas notre Seigneur. Et c'est malheureux. Mais Nicodème nous montre l'exemple. Nicodème a pris position pour le Seigneur. Le désir de plaire aux hommes empêche notre foi de grandir aussi. Mais le désir de plaire à Dieu fait croître ta foi. Voilà la différence. Nicodème a eu ce désir de plaire non aux hommes, mais à Dieu. Et sa foi a continué à grandir. Nicodème n'a pas cherché à plaire aux hommes, mais il a pris une position claire et nette en faveur de Jésus-Christ. Voilà un bel exemple à suivre pour nous aujourd'hui. Faisons des choix qui honorent Dieu, qui honorent Jésus-Christ. Des choix qui sont conformes à la parole de Dieu. Et rapidement, nous passons à la troisième apparition de Nicodème. Et pour cela, nous allons lire, frères, dans Jean chapitre 19, les versets 38 à 42. Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Jean 19, versets 38 à 42.
Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe d'aloès, de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait été encore mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.
Merci. Nous retrouvons encore Jésus-Christ, cette fois-ci, non pas devant ses collègues principaux sacrificateurs, mais nous le retrouvons à la croix. Nous le retrouvons à la croix. Voilà encore un progrès une progression de sa foi. Il est parti de nuit, en cachette. Il défend Jésus-Christ devant le conseil de Sanhédrin. Il ne s'arrête pas là. Nous le retrouvons maintenant à la croix. Et s'il faut faire des graphiques, vous verrez que sa courbe ne fait que monter. Sa foi continue à grandir. Certainement, à la croix, Nicodème s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dite dans Jean chapitre 3 au verset 14 que nous avons lu, que Jésus-Christ lui a dit au verset 14 du chapitre 3. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand Jésus-Christ fut crucifié, certainement Nicodème s'est souvenu de cet enseignement que Jésus-Christ lui avait donné. Parce que nous le voyons déjà au chapitre 3, à partir du verset 14 et 15, Jésus-Christ lui avait déjà dit ça. Et certainement, il s'est souvenu et dans sa mémoire, il dit, oui, c'est vrai, c'est lui le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde. Ce que Jésus avait annoncé à Nicodème lors de sa première rencontre s'est réalisé. Le Fils de l'homme a été élevé sur la croix. Et Nicodème a vu que Christ a été élevé sur la croix. Le même Nicodème qui avait dit au chapitre 3, verset 2, « Rabbi, nous savons, tu es le docteur venu de Dieu, au lieu de dire que tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, apparaît encore, comme nous l'avons dit pour la troisième fois, juste après la mort de Jésus. Et au verset 39, Nicodème, accompagné de Joseph d'Arimathée, lui aussi, il croyait en Jésus-Christ, mais en secret, en cachette, vient prendre le corps de Jésus pour l'embaumer et l'ensevelir. C'était pas facile pour eux d'aller demander la permission à Pilate, que Pilate leur autorise de prendre le corps de Jésus-Christ et de l'enterrer. C'était pas facile pour eux, parce que c'était des grands chefs. C'était des grands chefs, et ils couraient des grands risques, je peux dire. C'était à leur risque et péril. C'était à leur risque et péril. Et Nicodème s'est associé à lui aussi, parce que Nicodème a apporté 100 livres, font à peu près 33 kilomètres de parfums précieux, ça coûtait très cher. Et nous qui venons dans des pays où il y a la police secrète connaît tout. Hein? Même si tu fais ça en privé, là, donc la police secrète connaît tout. Que oui, Joseph Arimathée, oui, d'accord, il a fait une démarche officielle, il était allé voir. Mais qui a participé avec lui? Qui l'a aidé à descendre le col? Qui l'a aidé à louer un véhicule? Bon, à cette époque, il n'y avait pas de véhicule. Mais qui l'a aidé à organiser cela? La police secrète sait tout. Et je pense que le FBI de l'époque aussi savait tout. Donc, Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils couraient un grand risque. Mais ils ont dit, nous allons maintenant montrer notre foi en public et au grand jour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nicodème vient à la croix, apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe, d'aloès. Et cela correspondait à un enterrement royal. Un enterrement avec beaucoup d'honneur. Beaucoup, beaucoup d'honneur, parce que Joseph d'Arimathée, d'après Matthieu 27, 57 à 60, il était un homme riche. Nicodème avait aussi des moyens. Donc, ils ont fait, ils ont organisé, ou ils ont donné à Jésus-Christ un enterrement royal. Ils ont donné honneur à leur Seigneur. Bien qu'ils étaient, ils croyaient en Jésus-Christ, mais dans l'ombre, en cachette, mais à la croix, ils se sont vraiment exposés publiquement, ils ont montré leur foi et ils ont enterré dignement leur maître. Et la Bible dit que Nicodème récupère le corps de Jésus et le traite comme un roi qui mérite le plus grand honneur. Le plus grand honneur. Il déclare au grand jour sa foi en Jésus-Christ par une démarche officielle et visible. C'est plus une démarche officieuse la nuit en cachette. Mais maintenant, nous voyons Nicodème à la croix, au tombeau de Christ, d'une manière visible, officielle et au grand jour. Il est parti de ténèbres, la nuit, dans l'obscurité. Maintenant, il révèle sa foi au grand jour et dans la lumière que Jésus-Christ lui a portée, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Joseph, qui était un homme riche, possédait une tombe neuve creusée dans la roche, et cet homme n'a jamais servi. C'était une tombe de riches. Mais Dieu s'est servi aussi de Nicodème et de Joseph pour accomplir une prophétie. Pour accomplir la prophétie qui était déjà annoncée par le passé dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 53, le verset 9. Cette prophétie dit ceci, Ésaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Avec les riches. Et qui ont accompli cette prophétie? Nicodème et Joseph d'Arimathée. Voilà comment sa foi a grandi jusqu'à ce que ça arrive au grand jour et donner toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour finir, chers frères et sœurs, nous voulons nous poser une question. Posons-nous cette question, que chacun se pose cette question. Comment est ma foi? Que chacun réponde en lui-même. Comment est ma foi? Elle est en progression? Elle est en régression? Ou ma foi, comme on dit, fait du surplace? Comment est ta foi, chers frères et sœurs? Elle grandit? Elle dégringole? Où elle reste sur place. Que chacun de nous fait un examen de conscience. Mais souvenons-vous, nous, que Nicodème est parti de très loin, mais il a fini très haut en donnant l'honneur et la gloire à notre Seigneur. Et sa foi est partie du bas jusqu'en haut. Que le Seigneur bénisse sa parole.